Devant son trône, autour de son trône, tout est flamboyant. Malgré sa grandeur, l'immensité de sa grandeur, malgré sa toute-puissance, il a plu à ces dieux-là de nous approcher de nous, de s'approcher de nous par Jésus-Christ, son Fils bien-aimé. Et en Christ, il nous a adoptés. En Christ, il nous a fait passer de la mort à la vie, de ténèbres à la lumière. En Christ, nous sommes devenus les enfants du Père. En Christ, l'Esprit du Dieu Tout-Puissant habite en nous. Et faisant du coup de nos corps son sanctuaire vivant. Seigneur, merci pour tout, pour ce temps que tu nous as accordé, ô Dieu, tant qu'il nous a permis de nous approcher de toi, Seigneur, pour t'exprimer nos sentiments d'une manière ou d'une autre. Ce temps, Seigneur, nous a permis, ô Dieu, d'entrer dans ta présence avec reconnaissance, avec assurance, mais aussi avec humilité, pour, ô Dieu, épancher nos âmes devant toi, pour te rendre, ô Père, ce qui t'est dû de toute éternité, la louange, la gloire, l'honneur, la majesté, les acclamations, les cris de joie. Oui, Seigneur, cette célébration est une opportunité pour nous d'avoir un face-à-face avec toi, un cœur à cœur avec toi, car c'est dans ce face-à-face avec toi, dans ce cœur à cœur avec toi, qu'alors, Seigneur, nous accomplissons notre raison d'être, ici-bas notre raison de vivre. Oh, merci de nous aider à comprendre le bien fondé, l'importance, la singularité des moments comme ceci, des moments où nous entrons dans ta présence, où nous laissons tout derrière nous, Seigneur, pour nous porter vers toi et poser nos regards sur toi, le Dieu Saint, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu qui n'a ni commencement ni fin. Le Dieu qui vit au siècle des siècles. Oh, alléluia. Merci. Merci, Seigneur. Comme ta parole nous le rappelle si bien, il y a un temps pour tout. Un temps où, Seigneur, nous sommes invités à te parler, à nous exprimer devant toi, à t'encenser avec notre louange, Seigneur, notre adoration, nos chants et nos cantiques. Un temps, ô Dieu, où tu nous appelles à nous réjouir, Seigneur, devant ta face. Mais il y a aussi un temps où nous devons, Seigneur, nous asseoir humblement, oui, très humblement à tes pieds, pour recevoir ta parole. Ce temps est arrivé et nous voulons, Seigneur, te laisser la direction, une fois de plus, de ces moments, que nous puissions profiter au maximum, Seigneur, de tout ce qui va être annoncé, proclamé par ton serviteur et qui est conforme à ta parole. Merci pour tout. Amen. Gloire au Seigneur. Veuillez vous rasseoir. Et gloire à Dieu. Il est saint, il est puissant, il est tout. Que Dieu soit béni. Nous allons nous tourner vers la parole de Dieu. Je voudrais revenir sur notre thème de la fois dernière. Pour ceux qui ont une mémoire éléphantesque, le dernier thème sur lequel j'ai prêché, c'était le premier dimanche de cette année, c'était donc au mois de janvier, c'était sur cette interrogation qui nous accompagne, qui va nous accompagner tout au long de notre vie, cette interrogation qui surgit lorsque tout d'un coup nous sommes confrontés à une adversité, à une épreuve, cette interrogation qui est là, qui est donc une réaction par rapport à des situations qui nous entourent, des situations difficiles, qui montrent tout de suite que par nous-mêmes nous sommes incapables de les affronter. Cette interrogation n'est autre que comment faire? Comment faire face à l'épreuve? Comment faire face à l'adversité? C'est donc le thème qui nous a fait entrer dans, ou avec lequel nous avons commencé cette année. Et nous bénissons Dieu pour tout cela, car il est important de savoir que le plan de Dieu n'est pas forcément le nôtre. Voyez-vous, nous avons un planning, nous planifions toutes choses. Mais au-delà de notre planning, au-delà de notre désir, au-delà de notre volonté, au-delà de tous nos efforts, il y a la souveraineté de Dieu, il y a le dessein de Dieu, il y a ce que lui a prévu, alléluia. Et ce que lui a prévu est toujours le meilleur. Et notre rôle, notre vocation, ce n'est pas tant de vouloir faire des choses, même qui sont bonnes aux yeux de Dieu, mais notre vocation, c'est de laisser Dieu faire ces choses en nous et à travers nous. Comment faire face à l'épreuve? Nous allons relire le texte que nous avions lu la fois dernière, à savoir 2 Rois, chapitre 6. C'est donc cette histoire des Syriens, de l'armée de Syrie, qui décide d'attaquer Israël. Et à partir du verset 8, il nous est dit, « Le roi de Syrie était en guerre avec Israël. Il consulta ses serviteurs et dit, « Mon camp sera à tel ou tel endroit. » Mais l'homme de Dieu envoya dire au roi d'Israël, « Garde-toi de passer par cet endroit, car les Syriens y descendent. » Alors le roi d'Israël envoya des gens vers l'endroit que lui avait mentionné et signalé l'homme de Dieu pour s'y tenir en observation. Cela n'arriva pas seulement une ou deux fois, c'est-à-dire cela arriva plusieurs fois. Le roi de Syrie eut le cœur troublé, le cœur agité, inquiet, tourmenté, car il ne pouvait pas comprendre qu'à chaque fois qu'il arrêtait une stratégie, eh bien, son ennemi était au courant de cette stratégie. Il y avait forcément dans son entourage un mouchard, un traître. Vous voyez? Et donc, ce n'est pas possible. Nous sommes ici, nous nous enfermons au sous-sol, nous décidons que voilà, nous allons attaquer Israël à partir du nord. Et quand nous arrivons, eh bien, Israël nous a déjà précédés. Comment expliquer cela? Nous disons, nous allons l'attaquer à partir de l'ouest. Et quand nous arrivons, nous partons vers l'ouest, Israël est déjà là. Ce n'est pas possible. Il doit y avoir un mouchard. Donc, l'homme a le cœur troublé par cette affaire. Il appela ses serviteurs, leur dit, ne voulez pas m'indiquer lequel de nous est pour le roi d'Israël? L'un de ses serviteurs répondit, personne, mon seigneur le roi. Seulement, le prophète Élisée qui est en Israël rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. Verset 13. Le roi dit, allez voir où il est et je l'enverrai prendre. On vint lui remporter, il est à Dothan. C'est pas la même version, hein. Et il y envoya des chevaux, des chars et une forte troupe qui arrivèrent de nuit et qui encerclèrent la ville. Vous pouvez laisser, mais c'est pas ça, hein. L'assistant de l'homme de Dieu se leva de bonne heure et sortit. Et voici qu'une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Le jeune serviteur dit à l'homme de Dieu, « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous ? » Il répondit, « N'aie pas peur, alléluia. » Dans cette situation d'épouvante, de frayeur, de peur, de crainte, par rapport à cet environnement qui tout d'un coup leur est hostile, par rapport à ce problème qui surgit, tout d'un coup, les militaires, les soldats syriens sont là, un contexte de guerre. Le prophète Élisée commence par rassurer son serviteur. Il lui dit, n'aie pas peur, car ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Alléluia. Élisée pria, mais alors prie avec autorité, nous en parlerons dans la suite, comme je l'ai promis le vendredi. Élisée pria en disant, Éternel, ouvre ses yeux, je t'en prie, pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du jeune serviteur qui vit ceci, la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élysée. Amen. Ah, mon Seigneur, que ferons-nous? Nous sommes dans une situation difficile. Le serviteur d'Élysée est épouvanté, il est effrayé, il a peur. Ce matin-là, la veille, tout était calme dans la ville. La veille, tout était tranquille. Et puis voilà, ce matin-là, il se réveille, il sort et que voit-il? Il voit que la petite ville dans laquelle ils étaient est entourée par une troupe nombreuse, par des militaires, les soldats syriens, avec eux des chars, mais aussi des chevaux. Et c'est donc une vision qui l'horrifie. L'homme est horrifié. L'homme réalise que la mort va certainement arriver d'un moment à l'autre. Car comment faire? Nous ne sommes que deux, apparemment. Nous ne sommes que deux. Et en face de nous, il y a une troupe nombreuse. Il y a des chars. Il y a des chevaux. Et c'est là que l'homme de Dieu va le rassurer. Va lui dire, ne t'en fais pas. N'aie pas peur. Ne t'effraie pas. Ne t'épouvante pas. Car ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec... Qui sont avec Élisée et avec son serviteur? Et qui sont ceux qui sont avec l'armée de Syrie? Car apparemment, ceux, quand il parle ceux qui sont avec l'armée de Syrie, eh bien, il parle d'une autre réalité. Et nous verrons. Et la fois dernière, nous avons vu comment l'homme de Dieu a pesé son serviteur. Et nous avons vu comment il était important. Eh oui, les épreuves, la douleur, la souffrance, l'adversité. Ce sont des choses, mes amis, qui sont appelées à, ou qui sont même déjà des réalités dans notre existence chrétienne, dans notre expérience chrétienne. Comme je l'avais souligné, la marche avec le Seigneur est une marche à contre-courant. Nous allons en contre-courant, voyez-vous, à contre-courant du monde, à contre-courant de tous ces systèmes sous l'influence du diable, à contre-courant du diable lui-même, parce que le monde entier est sous la puissance, mes amis, du diable, le monde entier sous l'autorité de puissances démoniaques. Et en tant que chrétien, en tant que disciple du Christ, eh bien, nous allons à contre-courant. Et ainsi, nous voyons, et je l'ai souligné la fois dernière, nous voyons que la vie chrétienne n'est pas une marche de santé. Ce n'est pas une sorte de sinécure, quelque chose de tout repos. Non, mes amis. C'est donc une marche qui nous amènera dans des contrées où nous aurons à rencontrer toutes sortes de problèmes. C'est donc une marche qui nous amènera vers des situations difficiles. Eh oui, c'est vrai que nous connaîtrons, comme je l'avais dit, des moments de joie, des moments de bonheur. Il y en a, car il n'y a pas que des épreuves qui font partie de la vie du chrétien, du disciple, du Christ. Il y a aussi la joie, il y a aussi l'allégresse, il y a aussi le bonheur. Alléluia. Il n'y a pas seulement les larmes de douleur, les larmes de souffrance, les larmes de détresse, mais il y a aussi des larmes de joie. Oui, il y a des moments où le Seigneur nous visite puissamment. Des moments où nous passons par toutes sortes de... où nous connaissons des bénédictions. Mais ça, c'est l'avers de la médaille. Mais une médaille a toujours deux faces. Il y a l'avers et le revers. Quant au revers de la médaille, ce sont toutes ces choses difficiles. Ce sont toutes ces choses qui nous accablent. Ce sont tous ces problèmes, toutes ces difficultés. Et aujourd'hui, nous allons parler du bien fondé. Du bien fondé de passer par des moments d'épreuve. Eh oui. Nous n'avons pas d'autre choix si nous voulons vraiment que le plan de Dieu se manifeste dans notre vie que d'accepter, de prendre et de demeurer sur le chemin sur lequel il nous a placés, quelle que soit la nature de ce chemin. Ça peut être un chemin rempli de ronces et d'épines. Ça peut être un chemin où il y a des cailloux qui nous blessent. Ça peut être un chemin où, tout au long de ce chemin, il y a des gens qui se moquent de nous, des gens qui nous méprisent, des gens qui nous tournent en dérision, des gens qui nous jettent toutes sortes de colibés. Voyez-vous ? Nous n'aurons pas d'autre choix si nous voulons vraiment avancer avec Dieu. C'est là qu'il est important de comprendre toute l'importance. Le bien fondé, mes amis, de passer par des temps d'adversité. Car ce n'est jamais en vain que le Seigneur nous amène à prendre telle ou telle autre voie sur laquelle tout d'un coup nous rencontrons des obstacles. Ce n'est pas en vain que le Seigneur permet que nous connaissions des moments difficiles, que nous connaissions des saisons marquées par la sécheresse financière, par l'aridité affective, des saisons, mes amis, de vaches maigres. Nous sèmons beaucoup, mais nous récoltons très peu. Vous voyez ? Ce n'est pas en vain, mes amis, que le Seigneur va nous amener dans des situations où nous serons privés de tant de choses, même de choses légitimes. Des situations où même ceux qui nous aimaient, ceux qu'on a eu à aider, nous priveront de leur sourire. Vous savez, quelquefois, le sourire peut encourager l'autre. Vous voyez, quand on passe par des moments difficiles, on ne sait plus quoi faire. On est complètement à l'ouest, on a perdu le nord. Et quand on perd le nord, croyez-moi, on perd également le sud. Hein? Voilà. Et on est là, on ne sait plus, on a l'impression d'être sur un nuage, qu'on ne contrôle plus rien. Et puis tout d'un coup, il y a une sœur qui passe par là avec un bon sourire, un sourire fraternel. Ça va, mon frère Kamanda? Oui, ça va, ma sœur. Ça fait du bien. Mais plutôt que d'avoir affaire à un frère qui pense qu'il a atteint le summum de la sainteté, que lui transpire la sainteté, et en passant, il vous voit là, évidemment, avec une mine défaite, évidemment, on ne peut pas toujours être toujours gloire à Dieu. Il y a des moments. De moments où on passe par des moments difficiles et cela nous marque. Et puis vous rencontrez ce frère-là, lui, il pense être déjà arrivé au ciel. Voilà. Il vous regarde et dit, frère, tu dois prier. Hein? La Bible dit, réjouis-toi. Hein? Réjouis-toi. Et ça, ça fait encore mal. Ou alors, par son attitude, vous jugera. En vous faisant croire que c'est parce que, quelque part, vous avez désobéi. Parce que, quelque part, eh bien, votre vie n'est pas ce qu'elle aurait dû être. Voilà pourquoi vous passez par ce genre de choses. Mes amis, nous devons revenir à la parole de Dieu. Voilà. Il y a tant de dégâts dans les églises, parce qu'aujourd'hui, n'importe qui prêche. Des gens qui ne lisent jamais la Bible. Il y en a aujourd'hui qui prêchent plus l'actualité que la parole de Dieu. Voyez-vous ? Certes, nous sommes concernés par l'actualité. Mais attention, l'actualité passe. Mais la parole de Dieu demeure éternellement. Si ces gens pouvaient lire la Bible, ils comprendraient, ils verraient que Job n'a pas eu à idolâtrer, à sombrer dans l'idolâtrie, à fâcher Dieu, à désobéir, au contraire. Le Seigneur lui rend un témoignage extraordinaire. Lorsqu'il nous est dit, on dit au diable, tu vois mon serviteur, Job. Oui, des moments d'épreuve. Dans notre marche avec le Seigneur, nous connaîtrons des combats. Lorsque Élisée s'est retiré dans cette ville-là, évidemment, il y avait des hostilités entre Israël, le royaume du Nord, et Aram, c'est-à-dire le royaume de Syrie. Il y avait des hostilités. Il était là d'autant, il ne pouvait pas s'imaginer qu'il allait être confronté à cette réalité. Mais il savait au moins une chose, une chose que nous devons tous savoir, c'est que quel que soit l'endroit où nous sommes, dès lors que nous sommes dans la volonté de Dieu, la victoire est possible. Nous pouvons être dans un désert. C'est celui qui nous a conduits au désert. Alors qu'on ne peut rien planter au désert, on ne peut rien semer au désert, on ne peut rien moissonner au désert, eh bien, si celui qui nous a amenés au désert, il n'hésitera pas à nous envoyer des corbeaux pour nous nourrir. Il est le Dieu de miracles. Nous connaîtrons des combats de tout genre. Comme Élisée et son serviteur, cernés de toutes parts, entourés de toutes parts par des problèmes, surtout dans ce contexte de notre pays, mes amis, où le pays passe des moments très difficiles. Ce qui se passe à 2000 km de nous à l'Est, ce que subissent tous nos bien-aimés de l'Est, eh bien nous le subissons aussi, d'une manière ou d'une autre. Évidemment, eux c'est pire. Mais nous sommes touchés par tout cela, vous voyez, cernés par des problèmes, cernés, entourés par d'ennemis de tout genre. Oui, il arrivera que nous fassions face à des montagnes de problèmes. Et la question qu'on peut se poser lorsqu'il nous arrive de passer par ces moments, après la question du comment, l'adverbe comment, c'est le pourquoi. Pourquoi, Seigneur? Tu sais très bien que je n'ai personne pour m'aider là où je suis. Ce n'est que ce travail-là. Maintenant que je le perds, je n'ai pas d'oncle. S'il y en a deux qui sont là, mais ils n'ont rien. Je n'ai pas ceci. Comment, Seigneur, ceci? Comment, Seigneur, cela? Pourquoi tu le permets? Le pourquoi. C'est donc cette question qui va nous amener à comprendre le bien fondé, à comprendre l'importance, la nécessité des épreuves dans la vie de tout enfant de Dieu. D'abord, j'aimerais que nous sachions une chose, c'est que lorsque le Seigneur nous conduit, il nous fait prendre le chemin qui nous conduit tout droit vers des épreuves. Lorsque le Seigneur permet, car il est souverain, car il est tout puissant, n'est-ce pas? Il est capable de nous épargner tant d'épreuves. Mais lorsqu'il le permet, eh bien ce n'est pas par sadisme. C'est-à-dire le Seigneur ne prouve pas un certain plaisir à nous voir souffrir ni pleurer. Non, il est notre Père. Pas du tout, mes amis. Mais c'est parce qu'il a un plan. C'est parce qu'il aimerait se révéler. Et le désert, comme nous allons le voir, ces moments de difficulté, et les combats auxquels nous serons confrontés, et les adversités auxquelles nous aurons à faire face, tout cela n'aura que pour objectif ultime, eh bien, que nous expérimentions Dieu dans nos situations difficiles. Alléluia. Eh oui, nous allons le voir. Et l'histoire du peuple d'Israël, le peuple de la première alliance, et l'histoire des patriarches d'Israël, que ce soit Abraham, que ce soit Isaac, Jacob, que ce soit les 12 patriarches, que ce soit tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, ont fait partie de cette alliance-là, l'histoire de ceux que nous appelons les héros de la foi, ces hommes et ces femmes qui ont marqué l'histoire de l'humanité de manière indélébile, eh bien l'histoire, cette histoire, est pleine d'enseignements pour nous. Cette histoire de leçons pour nous. C'est une illustration vivante, oh alléluia, du bien fondé de l'importance des épreuves dans la vie du croyant. Alléluia. Vous êtes toujours avec moi? Amen. Le bien fondé, lisez la parole de Dieu. Voyez. Cette histoire-là nous montre que Dieu ne fait pas des choses au hasard. Quand il permet ceci, ou quand il permet cela, Dieu ne conduit pas les événements Comme ça, à la va-vite ou à la hussarde. Vaille que vaille. Comme ça, il se réveille le matin et dit, oh, attends, aujourd'hui tu vas apprendre la patience. Juste quand tu vas démarrer la voiture pour aller au boulot, paf, le démarreur capote. Non, il connaît toutes choses. Pour nous, l'histoire, voyez-vous, s'écrit au présent, le passé est déjà passé, hein? Mais aussi, l'histoire est à venir. Mais pour Dieu, c'est déjà la fin, il connaît la fin.
Alléluia.
Il connaît la fin. Il sait ce que nous serons sur le plan individuel, sur le plan de l'Église, ce que nous serons à la fin de cette année. Il n'attendra pas que nous arrivions au mois de décembre pour qu'il puisse faire une certaine analyse et se dire, mais tiens, voilà, je vais voir un peu comme l'année s'est déroulée de cette manière à partir des uns. Je vois que ce mois de décembre se terminera ainsi. Non, il connaît déjà ce mois-là. Dieu poursuit toujours un but dans la manière d'agir envers chacun de nous. Il ne fait pas les choses au hasard. En d'autres mots, les épreuves, les oppositions que nous pouvons rencontrer, les adversités, les tribulations, la souffrance, tout cela fait partie du plan de Dieu pour nos vies. Le problème, c'est de comprendre comment les larmes que je verse aujourd'hui, comment cette situation qui m'humilie aujourd'hui peut-elle contribuer à la gloire de mon Dieu, alors que les gens qui savent, qui connaissent que je suis chrétien, fidèle de la borne Upen, Kinshasa, tous ces gens savent que je suis très engagé, je leur ai toujours parlé de toi, comment tu es puissant, comment tu peux dire un mot et la chose s'accomplit, mais non que cela m'arrive, quel sera leur regard sur moi? Nous nous inquiétons de tout cela, mais laissez-moi vous dire une chose, Dieu n'a que faire de tout ça. Il sait ce qu'il fait. C'est parce que nous avons des standards, vous voyez, et nous voulons que les choses, eh bien, pour que nous soyons admirés, pour que les choses se passent comme il faut que nous ayons une certaine posture, il faut que nous soyons dans une certaine position. Non, Dieu a un plan. Et quand il permet cela, c'est toujours dans un but. David, un des héros de la foi, David, un homme qui nous a laissé, de par son expérience, qui nous a laissé des écrits qui aujourd'hui sont une véritable bénédiction pour nous. Cet homme a connu beaucoup, beaucoup d'épreuves dans sa vie. Cet homme a été propulsé, je dirais, au sixième sous-sol de l'épreuve. Que n'a-t-il pas connu? L'humiliation, le rejet, le mépris. Que n'a-t-il pas connu? Des attentats contre sa propre vie. Saül a attenté à plus d'une fois à sa vie. Que n'a-t-il pas connu? Humilié. Il a été pourchassé comme un prédateur qui pourchasse sa proie. Mais David est arrivé à comprendre une chose. Une chose qui nous dit dans le psaume 57, verset 3. Il dit, « J'écris au Dieu très haut, le Dieu qui mène toutes choses pour moi. » Qui mène toutes choses à bonne fin pour moi. Alléluia. Donc, tout cela finira par concourir à mon bien. C'est ce que Paul nous dira plus tard. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon ses desseins. Alléluia. Et gloire au Seigneur. Et donc, Dieu ne fait jamais les choses au hasard. Alors, dans ce cas, quelle est la raison d'être? Des épreuves dans la vie du croyant, des épreuves dans la vie de chacun de nous. Avant de répondre à cette question, j'aimerais que nous regardions d'abord à ce qui s'est passé dans la vie du peuple d'Israël, dans la vie des patriarches d'Israël, puisque le Nouveau Testament nous dit que tout ce qui est arrivé à Israël, leur est arrivé pour nous servir d'exemple. Alléluia. Nous devons toujours visiter l'histoire, hein. Voyez, Churchill l'avait dit en son temps, oublier l'histoire, c'est accepter son retour. Mais malheureusement, dans la plupart des cas, nous oublions l'histoire. Nous nous concentrons plus sur le présent. Voyez-vous? Et donc, que s'est-il passé pour Israël? Ce peuple se retrouvait en captivité en Égypte. Pendant quelques siècles, des générations d'Israélites sont nés, ont vécu, sont morts là, en Égypte, esclaves. Et puis un jour, le Seigneur, dans son amour, entend leur gré. Le Seigneur fait lever Moïse, vous connaissez l'histoire. Il va l'envoyer en Égypte auprès de Pharaon pour l'obliger à libérer son peuple. Pharaon va résister un temps soit peu et tout ça, mais finalement, c'est Dieu qui va avoir raison de lui, car Dieu a toujours raison. Vous savez ça? Vous ne pouvez pas le manipuler. Hein? C'est pourquoi, ne vous en faites pas. Si vous êtes dans la vérité, et que vous êtes seul dans votre famille, et que tout le monde est dans le mensonge, ne vous en faites pas. La vérité finit toujours par triompher. Voyez-vous? Donc, quand il libère Israël pour le conduire vers le pays promis, vers ce pays qu'il avait promis à Abraham et à sa descendance, cette descendance qui s'est, par un concours de circonstances, eh bien, qui s'est retrouvée en Égypte comme esclave, eh bien, Dieu va les libérer, n'est-ce pas, pour le faire sortir d'Égypte, de l'esclavage de l'Égypte, et le conduire vers la terre promise. Alors, après l'avoir libéré, écoutez-moi maintenant bien, après l'avoir libéré, le Seigneur ne l'a pas conduit par le chemin le plus court. Si vous connaissez la carte du Proche-Orient, et de l'Afrique aussi, hein, vous avez l'Égypte, et après, vous avez Israël, vous avez la Méditerranée. Et donc, Israël a une frontière avec l'Égypte. Voilà. Et puis, vous avez la bande de Gaza. Ces derniers temps, il est tout le temps, depuis plusieurs mois, il est question de Gaza. Mais là, entre Gaza, Israël et l'Égypte, il y a une frontière. Il y a un couloir, un corridor qu'on appelle le couloir de Philadelphie. Ça fait à peu près 14 kilomètres de long, qui sépare Israël, bande de Gaza, et l'Égypte. Quand vous entrez en Égypte, vous descendez, vous arrivez au pays de Goshen, où Israël était cantonné. Et donc, quand Dieu le fait sortir de là, logiquement, il aurait pu le conduire par ce chemin le plus court, le plus facile. Car dans ce corridor de Philadelphie, il n'y a pas de frontière naturelle. Il n'y a pas de montagne à escalader. Il n'y a pas de cours d'eau, il n'y a pas de fleuve. Voilà. Vous traversez la frontière comme ça, vous êtes en Israël. Donc Dieu connaissait tout ça. Dieu savait tout ça. Celui le créateur de toutes choses. Mais lorsqu'il libère son peuple, eh bien, curieusement, il ne le conduit pas par le chemin le plus court. Exode 13, 17 à 18, lorsque le Pharaon laissa partir le peuple, Dieu ne le conduisit point par le chemin du pays des Philistins. Eh oui, Gaza, toutes ces régions, étaient habitées par les Philistins. C'était la Philistie. Quoique le plus proche, car Dieu disait, le peuple pourrait avoir du regret en voyant la guerre et retourner en Égypte. Mais Dieu fit faire un détour au peuple par le chemin du désert vers la mer de Jonc. Les Israélites montèrent tout épuisés. Dieu ne les a pas fait passer par ce chemin le plus facile. Vous et moi, nous aurions été à la place de Dieu pour épargner à ce peuple qui était déjà épuisé. Hein. C'est ce que le verset 18 nous dit. Hein. Eh bien, qu'est-ce qu'on aurait dû faire? Il dit, écoutez, j'ai la puissance, j'ai créé quelque chose parmi les Philistins, et puis j'amène mon peuple qui arrive dans la terre de Canaan, le pays promis. Mais Dieu savait que ce pays était habité, oui ou non? Dieu savait qu'il y avait les Philistins, qu'il y avait d'autres peuples dans cette région. Et le Seigneur va donc les prendre sous la houlette de Moïse pour le conduire tout droit vers la mer. Oh là là! Oh là là! Comment expliquer cela? Vers le désert. Le chemin du désert. Et le plus grand obstacle auquel ils sont confrontés, c'est la mer. Comment traverser cette mer? Et derrière eux, il y a l'armée d'Égypte, les Égyptiens, avec à sa tête le Pharaon, qui tenait absolument à maintenir ce peuple dans son esclavage, parce que c'était une main-d'œuvre gratuite, hein, qui pouvait travailler, ils étaient corvéables, à merci. Oui. Mais la Bible nous dit que là, dans le désert, dès qu'il les a libérés, eh bien, il allait lui-même devant eux, le jour dans une colonne de nuée, pour les guider sur le chemin. Il ne les a pas abandonnés. Il ne leur a pas dit, Moïse, voilà, il n'a pas dit à Moïse, tu vois la carte, tu vois ce chemin, allez, vas-y petit. Non, lui-même, il a dit, il a montré le chemin, et il s'est engagé à être celui qui les guide, celui qui les conduit. La journée, il était dans une colonne de nuée sur le chemin. Et lorsque la nuit arrivait, il était dans une colonne de feu pour les éclairer. Tout cela afin qu'ils marchent jour et nuit. Dans cette alternance de jour et nuit, jour et puis la nuit, avec tous les obstacles, lui était présent. Et les voilà qui arrivent face à la mer. Voilà. Et quand ils arrivent face à la mer, qu'est-ce qu'ils font? Ils se mettent à murmurer. C'est pas possible. Tu nous as fait sortir d'Égypte. Tu nous amènes vers le pays promis, vers la terre promise. Voilà maintenant, tu nous conduis tout droit avec ton Dieu vers cette étendue aquatique, vers cette mer. Nous n'avons pas de bateau, quand bien même nous en aurions. Comment embarquer tout le monde et en un temps record? Parce que les Égyptiens sont derrière nous. Ils se sont mis à murmurer. Voyez. Et donc la vue de cet obstacle a suscité en eux la peur, le murmure, la crainte. Mais Dieu va les calmer par le biais de Moïse. Qu'est-ce qui va se passer? Il va simplement dire à Moïse, prends le bâton, frappe les eaux de la mer. Moïse obéit, qu'est-ce qui se passe? Les eaux s'ouvrent, alléluia, à la grande stupéfaction de ce murmureur, à la grande surprise de tout ce peuple-là, ils n'avaient jamais entendu parler de ça. Jamais dans l'histoire de leurs ancêtres, ni à l'époque d'Abraham, ni à l'époque de Jacob, ni à l'époque, oui, il y avait eu, ça sera plus tard, une mer qui s'ouvre. Mais eux, ils font cette expérience. N'est-ce pas merveilleux? Mes amis, Dieu n'a pas encore fini avec chacun de nous. Il y a encore tant de miracles qu'il a en réserve pour nous. Ne limite pas Dieu en se disant, en tout cas, tu as tant fait pour moi. Merci beaucoup. Maintenant, je vais me contenter du peu que tu as fait ou de beaucoup que tu as fait. Non! Avec Dieu, eh bien, c'est toujours plein. C'est la plénitude. Ils vont faire une expérience que leurs ancêtres, et ça c'est important, vous allez comprendre la suite, leurs ancêtres n'avaient pas faite. Ils n'avaient jamais connu ce Dieu-là comme celui qui est capable, mes amis, d'ouvrir le seau de la mer et de frayer un chemin à un peuple et de permettre à ces peuples de passer à travers la mer. Ce qui est arrivé. Non seulement il a ouvert le chemin pour Israël, mais en même temps, Pharaon, avec son armée, a voulu qu'il tienne absolument à rattraper ce peuple va être anéanti par les eaux de cette même mer. Alléluia. Et donc, aux yeux de Pharaon, quand il regarde Dieu d'Israël qui ouvre le seau de la mer, il se rend compte que c'est un Dieu redoutable. C'est un Dieu extraordinaire. Et aux yeux du peuple, c'est que c'est quelqu'un sur qui il pouvait compter, quelles que soient les épreuves. Ils poursuivent. Après cette démonstration de puissance de la part du Seigneur, ils poursuivent leur marche. Vous voyez? Et après, ils arrivent à Mara. Autre obstacle. Le Seigneur aurait pu se contenter seulement du passage à travers les eaux de la mer Rouge ou de la mer de Jonque. Non, pas du tout. Le peuple avait besoin de boire. Au désert, il fait excessivement chaud. On est vite déshydraté, n'est-ce pas? Eh bien, on ne trouve pas l'eau à tous les 500 mètres hein, dans le désert. Et là, ils arrivent à Mara. Et la Bible nous dit, à Mara, l'eau était amère. Comment boire de l'eau amère? Ils ne pouvaient pas donc la boire. Et là, de nouveau, Moïse crie à Dieu. Et qu'est-ce que Dieu va dire à Moïse? Prends, il lui montre un bois. Prends ce bois-là, jette-le dans l'eau. Moïse obéit. Il jette le bois dans l'eau, un miracle prend place. L'eau devient pure, l'eau devient douce, et le peuple boit. Le miracle, la force n'était pas dans le bois. C'était un bois qu'on pouvait ramasser, qu'on pouvait trouver n'importe où. La puissance résidait dans la parole du Seigneur. Prends ce bois. Moïse aurait pu se dire, mais ce bois-là, Seigneur, là tu me demandes quand même, qu'est-ce qu'ils font? Et ils ont besoin de boire, maintenant je dois boire un bois. Quel rapport entre le bois et l'eau? Fais, ma sœur, fais ce que Dieu te demande. Il sait ce qu'il fait. L'eau devient douce. À leur grande stupéfaction, le peuple boit. Une autre manifestation de Dieu. On avance vite. Ils continuent. Voyez-vous, ils arrivent à Horeb, il y avait un rocher. Ben, le peuple a encore soif. Et le Seigneur ne va pas renouveler la même expérience. Cette fois-ci, il dit à Moïse, prends le bâton, frappe le rocher. Moïse frappe le rocher, l'eau jaillit et le peuple boit. Vous vous rendez compte comment, à travers le désert, face à toutes ces situations difficiles, comment le Seigneur s'est manifesté. Et enfin, quand ils arrivent, cette fois-ci, ils rencontrent un ennemi des humains, c'est Amalek, les Amalécites, qui ont entendu qu'il y a un peuple qui venait. Elle dit, ils vont prendre notre terre, allons les bousculer, arrêtons-les, détruisons-les. C'est un peuple qui n'a jamais combattu, oui ou non? Esclaves pendant des enfants d'esclaves, des arrière-plans, arrière-arrière, d'esclaves. Donc avec une mentalité d'esclave. Tout ce qu'ils savaient manier, c'est le bâton, c'est la pelle, c'est la pioche, c'est transporter des briques, aller chercher du chaume en Égypte, planter. Mais ils n'avaient aucune expérience guerrière. Et là, Moïse discerne que là, le combat, ce n'est pas notre combat. Si lui nous a fait sortir, si c'est lui qui est aux commandes, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans cette vallée de la bataille, je dois me comporter comme si c'était sa bataille à lui. Qu'est-ce que Moïse fait? Il dit à Josué, il dit, petit, viens, fiston. Qui va choisir des hommes, comme dit Dobaraké, hein? Comme qui encore, Jérémie, Joseph, mais il n'avait pas de petites brioches, mais enfin. Et vous allez descendre dans la vallée, combattre. Quant à moi, je me retire au sommet de la colline, non pas pour aller me reposer, non pas pour aller jouer au Scrabble, hein? La main. Jouer au Scrabble là sur le sommet de la colline, mais pour prier. pour intercéder.
Pour dire, Seigneur, c'est ton combat. Nous te l'abandonnons. Alléluia. Et tant qu'il avait les mains levées, qu'il intercédait, eh bien, Israël écrasait l'ennemi. Et quand ses mains faiblissaient, eh bien, c'était l'ennemi qui prenait le dessus. Et finalement, ayant compris cela, il demande aux deux, Aaron et Hur, il dit, écoutez, venez à mon aide. Voyez, venez à mon aide. Évidemment, ils vont mettre des pierres et toutes ses mains pour les garder. Et là, de nouveau, la victoire. Donc, ça nous montre quoi? Ça nous montre que ce qui se passait dans la vallée dépendait totalement, entièrement, de ce qui se passait à la colline. L'intercession stratégique. L'intercession avec autorité. Moïse n'était pas là pour acclamer simplement Yah. Non! Il était en combat. Car derrière Amalek, comme derrière les Syriens dont il est question dans Deux Rois, il y avait des réalités spirituelles. Ceux qui sont avec nous sont nombreux, sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Ceux qui étaient avec Israël étaient beaucoup plus nombreux, plus puissants que ceux qui étaient avec Amalek. Et résultat, eh bien, Amalek est écrasé. Et ce jour-là, le Seigneur accorde la victoire. Ce peuple, pour la toute première fois, qui n'avait jamais combattu là où ils étaient, ils ne pouvaient pas combattre l'ogre égyptien. Cette fois-ci, pour une première fois, ils ont la victoire. Grâce à qui? Grâce au Seigneur. Et Moïse, que va-t-il faire? Et je terminerai par là. Moïse va ériger un autel. Il va bâtir un autel dans Exode 17, verset 15. Il va appeler cet autel l'Éternel ma bannière, Adonai Nissi. Adonai ma bannière. Vous voyez? Et donc, cette expérience-là, cette révélation de Dieu comme étant la bannière de son peuple, Moïse ne l'a pas reçue via l'expérience de son ancêtre Abraham. C'est une expérience qu'il a faite. Oh, alléluia. C'est donc au travers de cette expérience qu'il réalise que Dieu est vraiment notre bannière. Et notre bannière, la bannière c'est quoi? Ou l'étendard? Ben, c'est le drapeau, c'est une enseigne avec des signes distinctifs d'un peuple ou d'une nation. Si vous allez ici à la Gombe, eh bien, vous verrez que au niveau des ambassades, il y a toujours leur drapeau, oui ou non, leur bannière, qui vous montre ici, qui vous montre que, eh bien, ce lieu appartient, tout en étant au Congo, appartient, par exemple, aux États-Unis. L'extraterritorialité. Et là, vous verrez, à l'ambassade américaine, ce qu'eux-mêmes appelaient la bannière étoilée. Où que vous alliez, si vous voyez quelqu'un qui agite la bannière étoilée, vous pensez à qui? Ou alors, quand nous brandissons notre drapeau tricolore, nous savons que c'est le Congo, oui ou non? Eh bien, c'est un signe distinctif. Quand vous arrivez aux Nations Unies, il y a plusieurs drapeaux. Chaque pays est représenté. Chaque pays a un emblème. Chaque pays a un drapeau. Chaque pays a un signe. On sait que voilà, les drapeaux qui sont là, ce sont les drapeaux des pays qui sont membres des Nations Unies. Eh bien, pour le peuple de Dieu, notre bannière, c'est lui le Seigneur de gloire. Oh, alléluia. Mes amis, pour terminer, chaque génération doit faire l'expérience de Dieu. Nous ne devons pas nous reposer sur l'expérience de ceux qui nous ont précédés. Nous ne pouvons pas nous reposer sur les expériences d'Abraham, de Moïse, être tout le temps. Ah, Dieu a fait des choses pour Moïse, c'est vrai. Mais il faut que nous arrivions nous-mêmes à vivre le Dieu de Moïse dans notre vie. Dieu se révèle par l'expérience. C'est donc par cette expérience-là que Moïse est arrivé à cette révélation que le Dieu qui a libéré son peuple était aussi son étendard. Et quand lui est notre étendard, eh bien l'ennemi fuit lorsque nous nous engageons dans cette guerre avec lui. Alléluia. Et donc, mes amis, ces moments difficiles, ces moments d'épreuve sont des opportunités, sont des lieux, le désert, pour expérimenter Dieu et recevoir au travers de cette révélation, eh bien, au travers de ces expériences, recevoir sa révélation et se dire avec Moïse, oui, non seulement toi Moïse, tu l'as vécu face à Amalek et tu as dit que Dieu se révèle comme étant Adonai Nissi, mais je vois maintenant, je viens de vivre cette expérience, je peux dire avec force qu'il est vraiment le Dieu qui est ma bannière et qui m'amène. À chaque fois que j'entre dans le combat avec lui comme bannière, eh bien, l'ennemi recule. Qui peut résister à Dieu? Qui peut, mes amis, défier Dieu? Qui peut narguer Dieu? Quand il s'élève, ses ennemis fuient. Quand il est notre bannière, eh bien, les ennemis s'agitent, mais ils savent déjà qu'ils sont perdants, que tôt ou tard, eh bien, la victoire nous sera accordée. Alors, quand on a ces dieux-là, on ne peut que l'acclamer, on ne peut que le louer, on ne peut que l'adorer. Merci. Nous inclinons nos têtes dans la prière et nous continuerons la fois prochaine. Seigneur, nous voulons te remercier pour ce message. Merci de nous aider, ô Dieu, à accepter tout ce qui nous arrive comme venant de toi dès lors que nous sommes dans ton plan. Nous faisons peut-être face, Seigneur, à une grande épreuve qui nous dépasse. Nous faisons peut-être face, Seigneur, à une montagne de difficultés. Et face à cette montagne, nous avons été envahis par la peur, par le découragement. Nous sommes comme paralysés, tétanisés, Seigneur, et par tout ce qui nous environne. Mais aujourd'hui, Seigneur, tu nous as parlé. C'est dans des moments pareils que tu veux te manifester puissamment. Que ce soit dans des moments de combat, tu veux te montrer, te révéler comme étant Nissi, Adonai Nissi, l'Éternel qui est notre bannière. L'Éternel qui est notre force, notre victoire. Face à ce qui se présente en nous comme une mer difficile, Seigneur, à traverser, toi tu veux te manifester comme étant le Dieu qui dit un mot. Et puis la mer, les eaux de la mer s'ouvrent. Merci pour tout. Aide-nous à persévérer, à rester attachés à toi et avancer en ayant nos yeux fixés sur toi. Merci. Merci de venir également ces moments réservés, Seigneur, à la collecte des dîmes, au Dieu des offrandes, mais aussi, Seigneur, de l'argent destiné au soutien de ce projet de construction qui a démarré. Merci pour tout. Amen.